Il est 8h.
On a vu depuis le confinement apparaître toute une série de nouveaux gourous. Parmi ces gens-là, il y a sûrement des gens très bien, mais il y a effectivement des gens plus dangereux.
La pandémie favorise les dérives sectaires. Nous vous dévoilons ce matin sur Europe 1 comment des gourous profitent de la crise sanitaire pour étendre de leur influence. C'est un motif d'espoir dans le traitement de ce virus. Les anticorps clonaux arrivent en France. Édouard Philippe sera-t-il le candidat à la prochaine présidentielle? L'ancien Premier ministre s'amuse, en tout cas volontiers, avec cette rumeur. Et puis, un tableau, ça ne se regarde pas seulement, ça peut aussi s'écouter. C'est ce que nous dira Diane Chenouda à la fin de ce journal. À 8h15, mon invité Marlène Schiappa, le rapport sur les dérives sectaires et l'effet de la crise du Covid, les aussi les polémiques au sein du gouvernement. La ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa, sur Europe 1 à 8h15. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est avec Rémi Bossaron. Bonjour Rémi.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. À mesure que le virus infiltre les foyers, des gourous infiltrent eux les esprits. Nous vous révélons ce matin comment la pandémie favorise le développement des mouvements sectaires. Les signalements ont augmenté de 7% en 2020 par rapport à 2019. Bonjour Marion Dubreuil.
Bonjour.
La mission de vigilance et de lutte contre ces dérives sectaires, la Miviludes, a reçu près de 3000 signalements l'an dernier et le lien avec la pandémie est évident.
Oui, l'essentiel de ces signalements, près de 40%, concerne le domaine de la santé et du bien-être. Les gourous qui sont déjà installés dans le paysage de la médecine alternative se prononcent contre le port du masque ou contre la vaccination. C'est le cas du Belge Jean-Jacques Crèvecoeur, 300 000 abonnés sur Facebook. Il utilise la pandémie pour dénoncer un complot de la 5G qui serait à l'origine de l'apparition du virus.
Et certains vont encore plus loin, Marion.
Ouais, pour certains mouvements, le Covid, c'est carrément l'apocalypse. C'est ce que m'a confié Jeanne. Elle a quitté, il y a quelques années, une association dans le viseur de la Miviludes, le réseau Femmes Internationales Femmes Brisées.
Pour eux, la fin du monde concrète, physique, est imminente. Ils voient dans le coronavirus la confirmation physique qu'il y a un changement du cours des choses. Et évidemment que plus que jamais, on met en avant l'incapacité des gouvernements, et même plus que ça, la volonté des gouvernements de nuire à l'individu. Et donc la nécessité impérative du repli.
Et ce repli, il est facilité parce que les gens sont plus vulnérables en ce moment. Ils sont déjà isolés par la crise sanitaire.
Et ce qu'on constate également, c'est que les techniques d'approche des gourous ont évolué, Marion.
Plus de porte-à-porte, mais des lettres manuscrites directement déposées dans les boîtes aux lettres, des stages en visioconférence, des soins à distance. Le tout, bien sûr, à des tarifs exorbitants, jusqu'à 100 000 euros pour un coaching individualisé sur 2 ans. Le commissaire Éric Béraud, qui est le patron de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, a vu le nombre de ces enquêtes doubler l'an dernier.
On a vu depuis le confinement apparaître toute une série de nouveaux gourous. Ce sont des coachs de vie, des guides spirituels, des coachs de développement personnel, des naturopathes. Parmi ces gens-là, il y a sûrement des gens très bien, mais il y a effectivement des gens plus dangereux. Ce sont des enquêtes qui sont longues, compliquées à réaliser. Elles ont en moyenne, on a des enquêtes qui ont 2, 3 ans, parfois 4 ans plus, avec des dizaines, voire des centaines d'auditions, afin véritablement de prouver l'abus de faiblesse d'une personne en état de suggestion psychologique.
Crise sanitaire, désormais les gourous thérapeutiques collaborent en ligne. C'est ce que m'a expliqué une enquêtrice de la gendarmerie, c'est le référent national en prise mentale.
Les gourous thérapeutiques, auparavant, ils étaient un peu tout seuls dans leur coin. Mais par contre, en 2020, ils se sont tous réunis. Ils se connaissent tous, ils s'envoient des patients, entre guillemets. Là, ils sont tous ensemble sur la toile. C'est-à-dire qu'ils font des webinaires, ils organisent des webinaires ensemble dans le cadre de cette pandémie pour dénoncer effectivement le port du masque, la vaccination, le confinement, pour être contre l'État, en fait.
Ce qui inquiète les autorités, ce sont les audiences toujours plus importantes de ces gourous. Par exemple, Thierry Casasnovas. Il cumule 1 million de vues pour une vidéo en ligne sur les régimes alimentaires. Ce Français qui n'a aucune formation médicale incite ses adeptes à ne consommer que des aliments crus. Il est d'ailleurs actuellement visé par une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui.
Merci Marion Dubreuil pour ce dossier très complet sur le développement donc des dérives sectaires en temps de pandémie.
On les appelle les anticorps monoclonaux. Deux mots auxquels il faut s'habituer car ils sont une lueur d'espoir dans la lutte contre le Covid-19.
Ces anticorps viennent de bénéficier d'une autorisation en urgence en France. Ils seront disponibles pour certains patients dans les hôpitaux. Et en fait, Anne Le Gall, on en a déjà entendu parler. Ils font partie de ces traitements expérimentaux administrés au président américain Donald Trump en novembre dernier.
Voilà, le traitement de Regeneron dont avait bénéficié l'ancien président américain devrait être autorisé dans les jours qui viennent. Et pour l'instant, c'est un traitement de la même famille, celui du laboratoire Eli Lilly, qui vient d'obtenir une autorisation temporaire d'utilisation en France. Les anticorps monoclonaux révolutionnent depuis 20 ans le traitement du cancer et de certaines maladies rares, explique Brigitte Autran, professeure d'immunologie. Et les essais cliniques montrent qu'ils peuvent aussi réduire les formes graves du Covid s'ils sont proposés très tôt, dans les 5 jours après le début des symptômes.
C'est un petit peu comme si on prenait du plasma de convalescent, mais c'est une méthode plus sophistiquée qui permet surtout de sélectionner les anticorps les plus puissants. C'est la première génération de traitement vraiment dirigé contre le virus qui est mise au point.
Mais étant donné leur coût, 1 à 2000 euros la dose, ces anticorps monoclonaux ne pourront pas être proposés à tout le monde. Ils ne seront disponibles qu'à l'hôpital, pour des patients fragiles, notamment les plus de 80 ans ou des personnes sous chimiothérapie, sous dialyse ou transplantées.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Autre nouvelle encourageante apparue ces dernières heures, elle concerne cette fois la campagne vaccinale.
Le vaccin Pfizer est aussi efficace dans les conditions du monde réel que dans les essais cliniques. 94% d'efficacité contre les cas symptomatiques du Covid-19, résultat d'une vaste étude réalisée en Israël. Quant au vaccin de Johnson & Johnson, il est très efficace, y compris contre les variants brésiliens et sud-africains, annonce faite par l'Agence américaine des médicaments. Ce vaccin doit être très prochainement autorisé aux États-Unis.
Mais en attendant les résultats de cette campagne vaccinale, la situation sanitaire, elle, se dégrade en France.
31 000 nouvelles contaminations en 24 heures, du jamais vu depuis la mi-novembre. Dunkerque et Nice confinés le week-end. D'autres territoires peut-être bientôt concernés. Jean Castex doit s'exprimer ce soir. Mais à contre-courant de cette tendance, certains départements moins touchés que les autres aimeraient voir les restrictions allégées. C'est le cas notamment en Bretagne, Charles Guyard.
Qui peut le plus, peut le moins, c'est le refrain entonné par certains élus bretons ayant pris au mot la volonté exprimée mardi par Emmanuel Macron de régionaliser les mesures sanitaires. Ici, des maires proposent ainsi de reculer le couvre-feu à 20h et celui de Saint-Brieuc, Hervé Guillard, va lui-même un peu plus loin.
Le mieux, c'est même de le reculer jusqu'à 21h. C'est pour permettre aux gens d'aller faire leurs courses, d'aller voir leurs parents, leurs amis. Les règles de sécurité, elles sont connues de tous. C'est dans les espaces clos, là où vous enlevez votre masque, que vous prenez des risques.
Et fort de cette conviction, le maire costard-mauricain milite aussi pour la réouverture des terrasses, des cafés et restaurants, avec un accès limité par exemple. Un projet que le professeur Pierre Tatevin, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes, ne trouve pas si déraisonnable.
Ça me paraît pas fou de proposer ce genre d'évolution, mais pour que ce soit rassurant pour tout le monde, essayez d'encadrer ça. Et avec des gens qui sont conscients que c'est l'évolution vers une vie plus normale, mais c'est pas la vie normale tout de suite.
Et en attendant, une étape a déjà été franchie en ce sens dans le Morbihan, où le port du masque n'est désormais plus obligatoire dans certaines zones et ce, depuis le 17 février. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Et pour le moment, le gouvernement écarte cette hypothèse d'un allègement des restrictions, c'est ce qu'a déclaré hier son porte-parole, Gabriel Attal.
Chacune de ses prises de parole est scrutée et lui semble s'en amuser.
Oui, lui, c'est Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. D'aucuns lui prêtent la stature et l'ambition d'un candidat à l'élection présidentielle, une rumeur à laquelle il arrive à répondre sans répondre, Jean-Louis Baudot.
Oui, Édouard Philippe, maire du Havre, est devenu spécialiste des réponses de Normand. Interrogé mercredi soir dans une émission de foot sur ses ambitions présidentielles, l'ancien Premier ministre a mis de très longues secondes à répondre qu'il bottait en touche. Il n'en fallait pas plus pour relancer les rumeurs, d'autant plus quand on a appris hier qu'Édouard Philippe lançait une association de soutien à son action politique au Havre. Certains, y compris dans la majorité présidentielle, y ont vu une manœuvre pour récolter des fonds pour une éventuelle candidature. Des spéculations qui font rire l'entourage d'Édouard Philippe. C'est une association locale, seulement ouverte aux élus havrais, assure l'un de ses conseillers. Ses amis ont beau mettre en avant sa loyauté, même ses plus proches s'amusent de l'émotion suscitée par ses cartes postales, ses sorties médiatiques. Dès qu'il fait quelque chose, ça prend des proportions dingues, s'amuse un collaborateur. Une de ses amies note tout de même, son sang-froid et son humilité ont marqué les Français lors du Covid. En avril, Édouard Philippe sortira un nouveau livre avec son ami Gilles Boyer. À ce moment-là seulement, il parlera politique, promet l'un de ses proches, comme s'il avait un jour arrêté de parler politique.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Dans un tout petit instant sur Europe 1, nous vous parlons de ces commerçants qui ont basculé dans la numérisation pour survivre à la crise, bien sûr. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal, Rémi Bossaron.
La numérisation des commerces, c'est la révolution en cours à laquelle s'intéresse Europe 1 aujourd'hui entre 13h et 14h. Tout à l'heure, La France bouge, émission spéciale avec Alain Griset, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises. La numérisation, c'est un passage obligé pour beaucoup de commerçants ces derniers mois, face au confinement notamment, et certains y ont même trouvé leur épanouissement, comme cette commerçante parisienne rencontrée par Élise Dangean.
Hello.
Coucou Christine, comment ça va?
Le téléphone de Yaël est devenu un outil de vente à part entière.
La chemise, je vous mets une small, parce qu'elle taille très grande. Je suis sûre que ça ira.
Sûr, hein.
Certaine.
Je sais que je suis plus large dans vous.
Je sais.
Depuis le premier confinement, la patronne de cette petite boutique familiale développe à fond son compte Instagram. Elle y poste des photos des vêtements qu'elle vend et ça fonctionne. En à peine un an, son nombre d'abonnés a plus que triplé.
Cette cliente-là, elle est tombée sur mon Instagram, puis on a fait une première commande. Puis là, elle appelle une fois par semaine. Ça, c'est une cliente que j'aurais peut-être jamais rencontrée en dehors de ce Covid.
Un changement de cap qui a demandé quelques efforts à Yaël, mais qu'elle ne regrette pas du tout.
Alors moi, j'ai 50 balais, j'étais une nulle totale là-dedans. Je savais même pas poster une photo. Donc, j'ai fait un stage intensif. Et du coup, oui, je me suis mis un peu plus en scène. J'ai fait même des posts où je portais les fringues. Enfin, on a donné de notre personne, quand même.
Aujourd'hui, impossible pour la patronne d'envisager son business autrement. Une première étape avant peut-être de lancer son propre site internet.
Le reportage à Paris, Adélise Donjon.
C'est une voix qui a résonné hier soir et qui, à sa façon, marque l'histoire de la musique classique en France.
La voix de Marie-Laure Garnier, soprano, guyanaise, révélation artistique lyrique aux Victoires de la musique classique hier. Et c'est la première fois qu'une chanteuse d'outre-mer obtient ce prix. Et de la musique encore, on va en entendre. Mais au musée, cette fois, le Centre Pompidou vous propose d'écouter un tableau.
Oui, vous avez bien entendu, montez le son. Ça se passe sur une application qui s'appelle Play with Kandinsky, jouer avec Kandinsky. Diane Chenouda l'a essayé pour Europe 1.
Vous entendrez ce son de trompette si vous cliquez sur le rectangle jaune. Et ce son de violon pour le rouge. Car Kandinsky, qui peignait en musique sur Debussy ou du jazz, associait un son à chaque couleur. Pierre Caïssa est responsable des partenariats pour Google Art et Culture.
Kandinsky voyait la couleur jaune comme le son d'une trompette, la couleur bleue comme le son d'un orgue, la couleur rouge comme le son d'un violon, et à chacune de ces couleurs était associée une émotion. Par exemple, le jaune a une émotion impertinente, effrontée. Pour le rouge, c'est associé à une émotion plus agitée. Le bleu, quelque chose d'un peu céleste, supernaturel. Donc c'est une entrée dans l'esprit de Kandinsky.
Pour cela, les ingénieurs ont fait appel à l'intelligence artificielle et à deux musiciens.
Eux ont réinterprété, justement, avec des synthétiseurs, des boîtes à rythme, ce à quoi pourrait ressembler ce que Kandinsky entendait, mais avec des instruments d'aujourd'hui.
Vous pouvez même composer votre propre musique en cliquant sur plusieurs triangles à la fois pour créer cette symphonie, enfin plutôt cette joyeuse cacophonie.
Voilà ce qui se passe, on appuie sur tous les triangles à la fois.
Oh, c'est pas une cacophonie, non, ça s'écoute. Attendez.
Rythme.
C'est un jeu vidéo de 97.
La cacophonie peut être sportive pour Lille qui va jouer ses qualifications pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa ce soir sur le terrain de l'Ajax Amsterdam. Ils avaient perdu 2-1 à l'aller les Lillois. Et puis en Ligue des Champions, on le rappelle hier, victoire de deux favoris. Le Real Madrid chez l'Atalanta Bergame 1-0 et Manchester City sur le terrain neutre en fait de Borussia Mönchengladbach 2-0 en huitièmes de finale. Allez.
Merci Rémi Bossaron, c'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Les mouvements sectaires et l'impact de la pandémie de Covid sur ces mouvements sectaires. Et on en dénombre 500 en France, 140 000 personnes concernées, 90 000 enfants et adolescents. Ce sont les résultats d'un rapport commandé par Marlène Schiappa il y a quelques mois. C'est mon invité dans un instant, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, il est 8h16. L'invité politique de la matinale, c'est Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté. Bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
On vient d'en parler dans le journal de 8h. Les remèdes miracles autour du bien-être, les thérapeutes escrocs, alors que les victimes, ça peut aller de celui qui surconsomme de la vitamine D à celui qui va jeûner plusieurs semaines et mettre ses organes en danger. Des gourous, des faux médecins ont vu le filon de la pandémie de Covid.
Exactement. Souvent, quand on pense à des sectes, on pense à Charles Manson ou à l'ordre du Temple solaire. C'est une représentation qui est imagée et surtout éloignée de la réalité de terrain. Et notamment, ce qu'on a observé, c'est qu'avec la pandémie, il y avait une recrudescence de ces phénomènes sectaires. Donc, on ne disposait pas de cartographie. Donc, j'ai demandé à la Miviludes, mais aussi la police nationale et la gendarmerie nationale, de travailler ensemble à la préparation d'un rapport et d'une cartographie très précise des nouveaux mouvements de dérive sectaire. Et c'est assez impressionnant parce qu'en réalité, sait, en France, il y a environ 500 groupes de déviance sectaire actifs liés à ces nouveaux mouvements et environ 140 000 personnes touchées, dont 90 000 enfants et adolescents. Et
alors justement, on va entrer dans le détail. Il y a ces faux thérapeutes. Alors les gourous et les sectes, on pense évidemment aussi aux dérives religieuses. Et là, on les retrouve évidemment dans cette pandémie, ceux qui promettent de guérir par la prière ou alors qui annoncent l'apocalypse. De qui parle-t-on, Marlène Schiappa, de courants religieux en particulier ?
Exactement, mais en fait il y a trois types de nouvelles entre guillemets tendances de dérive sectaire. Un, tout ce qui est lié au paramédical et au bien-être, et là évidemment ça a explosé avec la pandémie parce que les gens sont en quête de sens, de remèdes, etc. Et ça c'était très bien décrit dans votre reportage précédemment. Deux, tout ce qui est lié à des sectes autour de mouvements religieux qui se basent sur des principes religieux ou des dogmes, mais qui favorisent un repli sectaire, et là il y a de nombreuses saisines par exemple pour des pratiques d'exorcisme, de diabolisation de l'homosexualité, de thérapie de conversion, etc.
Mais dans toutes les religions, Marlène Schiappa ?
Bah en fait, ça peut une secte, c'est-à-dire qu'elle peut se baser sur n'importe quelle religion. Ce qui caractérise une secte, c'est que vous avez un gourou, une idéologie et une emprise avec une vocation à aller capter de l'argent ou avoir une emprise, voire de la prédation sexuelle. Donc en fait, n'importe quel beau principe, qu'il soit de bien-être, de développement personnel ou religieux, peut servir de base à un gourou qui va le transformer et le dévoyer pour en faire une dérive sectaire. Et le troisième mouvement qu'on observe, c'est le mouvement complotiste à l'extrême. C'est le survivalisme, ce sont des grosses organisations type mouvement QAnon, etc.
On va revenir sur tous ces points. L'isolement joue, Marlène Schiappa. Et là, plus précisément, la Mivilude explique qu'elle a été destinataire de davantage de signalements au moment particulier du déconfinement. La Mivilude, c'est la mission de lutte contre les dérives sectaires. Alors, je ne vous demande évidemment pas si on va se confiner ou pas, ni quand, ça ne sert à rien, on est d'accord, je pense. Mais simplement, en cas de confinement durci, et prenons-le pour acquis un instant, qu'est-ce qui est mis en place pour prévenir de nouvelles dérives, de nouvelles victimes?
Alors la particularité de la dérive sectaire et de l'emprise sectaire, c'est que effectivement elle profite de moments de fragilité ou de moments d'isolement dans la vie d'une personne. Elle touche majoritairement des personnes en situation de précarité ou isolées, mais elle n'épargne aucune classe sociale. On a des enfants qui font des signalements à la Mivilude pour ces raisons. Et donc pour répondre à votre question, la Mivilude, elle est désormais placée sous mon autorité au ministère de l'Intérieur. Nous la renforçons. J'ai créé un conseil d'orientation de la Mivilude que j'installe avec des personnalités reconnues du sujet. Je pense à Georges Fenech, Marie-France Irigoyen, Gérald Bronner, Cynthia Fleury et d'autres. Et je nomme une magistrate à sa tête qui s'appelle Anène Romdan et qui va donc avoir pour mission de diriger les services de la Mivilude et de faire un lien plus étroit avec la justice. Ma volonté, c'est que dès lors qu'il y a un signalement à la Mivilude, désormais, il puisse donner lieu à une enquête de justice quand ce signalement est sérieux.
Pardonnez-moi de faire ce parallèle, mais on se rappelle aussi de vos combats de lutte contre les violences faites aux femmes. Et ce que vous décrivez dans la judiciarisation aussi avec ce rapport, c'est que ce sont des dossiers d'emprise, des dossiers avec peu de victimes qui parlent et donc peu de preuves à accumuler. C'est très compliqué de monter un dossier.
C'est très difficile et je voudrais saluer le travail de toutes les associations qui mènent de très longue date et avant d'ailleurs qu'il y ait une action de l'État, un travail important pour sauver et protéger les familles des emprises sectaires. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de définition juridique du mot secte en France. Donc on doit caractériser un certain nombre de faits. Par exemple, dans le projet de loi pour les principes républicains, nous avons adopté un motif supplémentaire de dissolution d'association quand il y a atteinte à la dignité des personnes, ce qui est typiquement caractéristiques des groupes sectaires.
Et justement, c'est très compliqué à définir. Et Marlène Schiappa, dans ses mouvements, dans ses dérives, ses gourous, souvent, ils contestent votre politique, ils vous contestent les masques, les confinements. C'est parfois très anti-État, en tout cas anti-gouvernement. Est-ce que ces courants vous inquiètent politiquement, Marlène Schiappa ?
Alors moi je fais vraiment la distinction entre ce qui relève de la critique ou de l'interrogation. On dit il y a des sectes avec des gens qui posent des questions sur des vaccins. Poser des questions et s'interroger, c'est le fondement de la science, c'est la controverse et le fait qu'on apporte des réponses scientifiques. Là je voudrais vraiment préciser qu'on parle de mouvements extrêmes qui rejettent effectivement en bloc notamment les institutions et pas seulement la politique ou le gouvernement ou le président de la République, mais vraiment les institutions.
Les institutions, c'est une dérive sectaire ?
Alors, en soi, non. Encore une fois, ça dépend de ce qui est caractérisé. Par exemple, on a des mouvements de survivalisme et de collapsologie qui prêchent l'effondrement de la vie terrestre et l'épuisement des ressources naturelles. Ils recherchent une autarcie avec, par exemple, du surarmement. Et là, c'est très dangereux parce que ce sont des groupes qui proposent des stages et qui ont déjà fait des victimes. Je pense notamment, par exemple, à une victime dans le Morbihan suite à un stage proposé comme celui-là. Ou je pense, par exemple, à la personne qui a tué les trois gendarmes dans le Puy de Dôme, qui était surarmé et qui avait la vocation de nuire et de tuer. Et d'ailleurs, il est passé à l'acte.
Si je vous pose la question, c'est parce que vous les avez évoqués vous-même. On retrouve par exemple dans ce rapport mention du mouvement QAnon. Alors on sait que ce sont les supporters complotistes de Donald Trump aux États-Unis. Ce projet QAnon s'importerait en France, mais ça par exemple, c'est considéré comme une dérive sectaire ?
Oui, c'est considéré comme une dérive sectaire par les experts de
l'opposition de l'opposition politique. Vous voyez ce que je veux dire dans ma question, Marlène Schiappa ?
Je vois très bien ce que vous voulez dire, mais là encore, ça dépend des faisceaux d'indices concordants qui sont présentés. Quand vous dites « je m'oppose au gouvernement et je ferai tout pour que ce gouvernement, ce gouvernement ne soit pas réélu, etc. », là, on est dans l'opposition politique. Quand, en revanche, vous menacez de passer par la force, quand vous avez de l'endoctrinement, de l'emprise, eh bien là, c'est très grave. En ce qui concerne le mouvement QAnon, je voudrais dire qu'il y a une dizaine de signalements qui ont été reçus par la justice autour de phénomènes d'emprise et d'endoctrinement. D'ailleurs, Facebook lui-même a décidé de supprimer des groupes QAnon parce qu'ils diffusaient de fausses informations dangereuses avec des appels à la violence. On ne peut pas appeler à passer à la violence, surtout dans un cadre d'emprise et d'endoctrinement. C'est ce qui caractérise la dérive sectaire.
Mais Marlène Schiappa, par exemple, un exemple qui est peut-être un peu plus gris, les défenseurs du professeur Raoult et de l'hydroxychloroquine, vous les rangez dans les 140 000 personnes victimes des sectes ?
Non. Et pour être très clair, il n'appartient pas à la ministre chargée de la citoyenneté de trier ça c'est une secte et ça, ça n'est pas une secte. Ce qu'on observe et la manière dont travaille l'ami Vilude, encore une fois avec la police nationale et la gendarmerie nationale pour ce rapport, c'est de distinguer ce qu'on appelle des faisceaux d'indices concordants qui vont nous montrer qu'il y ait un gourou, une idéologie et une volonté de nuire et avec derrière des délits ou des infractions. C'est par exemple quelqu'un qui fait de l'endoctrinement et qui coupe les liens avec d'autres personnes. C'est les stages qui ont été évoqués dans votre reportage, promus par Thierry Casasnovas, par exemple. Là, nous avons affaire à un gourou. C'est la personnalité la plus signalée. Il y a eu 600 saisines vis-à-vis de la justice. Et on voit que, par exemple, en 2018, il y a eu une interpellation par la police d'un ostéopathe qui était déviant, qui prodiguait des soins soi-disant énergétiques à distance pour beaucoup d'argent. Et ça a permis d'ailleurs une saisie d'avoirs criminels de plusieurs millions d'euros. Il faut qu'il y ait une volonté de nuire quand il y a une dérive sectaire, soit par la prédation sexuelle, soit par les aspects financiers, soit pour endoctriner des personnes et inciter à leur repli et à porter atteinte à leur équilibre social, moral et financier.
Marlène Schiappa, je regardais quelques chiffres. Côté gendarmerie, on parle d'une centaine d'enquêtes en cours contre ces mouvements sectaires. Pour la police, l'Office central de répression des violences aux personnes parle d'une vingtaine d'enquêtes. Quand on regarde vos chiffres et ceux-ci, on se demande très simplement, est-ce qu'on a vraiment mis le paquet ?
Alors là, on est en train de renforcer cette action. Donc oui, il y a des actions qui ont été menées, mais si je les renforce, c'est qu'elles peuvent être renforcées. Par exemple, en ce qui concerne l'ami Vilude, je vous le disais, j'installe un conseil d'orientation avec des experts, mais avec aussi des parlementaires qui pourront exercer un travail de contrôle, mais également avec des associations. Je pense à l'UNADFI, je pense au CCMM, je pense à la Ligue contre le cancer, et nous allons déléguer des fonctionnaires d'autres services. Je pense à Bercy, la santé, la justice, l'éducation, au sein de l'ami Vilude, qui est donc une mission interministériel. Par ailleurs, j'adresse cette semaine une circulaire sur les dérives sectaires aux préfets, en leur demandant de se mobiliser, de mobiliser les services de police et de gendarmerie partout en France, d'être vigilants et de signaler à la justice les mouvements et dérives sectaires qu'ils peuvent observer sur le terrain, dans les territoires et qui mettent en danger des familles entières. Et pour cela, il y a plusieurs outils à notre main. Le signalement aux autorités judiciaires, la mise en œuvre de la dissolution administrative, l'engagement des services de l'État. Ça fait des années qu'aucune instruction n'a été donnée aux préfets sur ce sujet. Désormais, nous leur demandons d'être très vigilants, notamment eu égard à la pandémie et aux dérives qui peuvent en découler.
Marlène Schiappa, un dernier mot et cette semaine a été agitée politiquement dans les débats politiques et ce n'est pas très clair ce matin. Quelle est la ligne du gouvernement, j'ai bien dit du gouvernement, sur cette question de l'islamo-gauchisme à l'université ?
Mais il me semble qu'il y a une ligne très claire et avec des débats. Le mot d'islamo-gauchiste,
vous l'endossez déjà ce mot ?
Non, mais moi, je n'ai pas envie de relancer la polémique là-dessus. Moi, ce que j'ai dit à de nombreuses reprises, c'est qu'on est tous le gauchiste de quelqu'un. Moi-même, j'étais traitée de gauchiste à de nombreuses reprises. Et d'autres personnes estiment que je suis trop à droite. Donc, on se place tous quelque part de façon subjective sur l'échiquier politique. Maintenant, moi, je trouve que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est parfaitement dans son champ de compétences lorsqu'elle demande un état des lieux pour voir qu'est-ce qui est financé en termes de recherche, comment, quelles sont les conditions. Et je voudrais par ailleurs saluer une annonce qui a été faite par Frédéric Vidal sur un sujet que j'ai porté pendant des années, y compris au gouvernement, sur la précarité menstruelle. Désormais, toutes les étudiantes vont pouvoir avoir accès gratuitement à des protections hygiéniques. Et ça, c'est la première fois qu'en France, le gouvernement met sujet sur la table et y apporte des réponses.
Simplement, je reviens sur cette question de l'islamo-gauchisme. C'est dans votre camp qu'on parle de retour du clivage droite-gauche.
Oui, peu importe. Chacun a le droit de s'exprimer et chacun a le droit d'avoir son avis. L'important, c'est l'action qui est menée. C'est l'action qui est menée contre l'islamisme radical, puisque c'est bien de cela dont on parle. C'est la loi que nous avons pris, que nous avons portée avec Gérald Darmanin et avec le gouvernement pour mieux agir contre le terreau du terrorisme. Bien. C'est cela qui est important. Et maintenant, je crois qu'il faut mener ce combat absolument partout.
Marlène Schiappa, je crois
que ça transcende le clivage gauche-droite.
Merci beaucoup, Marlène Schiappa.
Merci à vous.
Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté en direct ce matin sur Europe 1. Il est 8h29.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre l'info avec Théo Manval et la météo de Laurent Cabrol. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 8h30 sur Europe 1. Nouveau point sur l'info avec Théo Manval.
Et la formation tombe à l'instant. Un test PCR sera obligatoire en Moselle à compter du 1er mars pour les déplacements transfrontaliers non professionnels. Déplacements donc à travers les frontières avec le Luxembourg et l'Allemagne. Test PCR obligatoire à partir du 1er mars pour les déplacements non professionnels. Annonce à l'instant du gouvernement. Alors que débute aujourd'hui la vaccination chez les médecins généralistes, 2 millions de Français sont concernés. Il faut être âgé de 50 à 64 ans, avoir des facteurs de comorbidité. Les doses administrées seront celles du sérum AstraZeneca qui sont arrivées ces toutes dernières heures dans les cabinets, comme chez cette médecin lyonnaise qu'est allée voir Jean-Luc Bougeon.
Enfin, elles sont là, les fameuses doses de vaccin AstraZeneca, dans le frigo du cabinet, apportées hier après-midi au docteur Florence Lapica par le pharmacien.
Ils sont là, il nous les a mis dans une petite boîte pour pas qu'ils se renversent, donc ils seront tout prêts pour demain matin.
Il y en a combien ?
Il y a 5 flacons parce que nous sommes 5 médecins au cabinet à vacciner cette fin de semaine. On a une sonde et un thermomètre pour bien vérifier que le frigo reste à température. Là, il est à 8 degrés.
Donc c'est bon, là, donc, ça suffit ?
Voilà, exactement.
Dans chaque flacon, 10 doses pour vacciner 10 patients. C'est le docteur Lapica elle-même qui les a appelés pour les convaincre, car souvent, ces patients, pourtant dans la tranche d'âge concernée, souffrant de diabète ou d'hypertension, étaient méfiants face à ce vaccin à l'efficacité moindre.
Ils étaient très hésitants au départ.
Vous avez dû les convaincre, vous leur avez dit quoi ?
Qu'on ne peut pas attendre le Pfizer. En fait, un certain nombre de patients veulent attendre l'autre vaccin qui est plus efficace. C'est vrai, si on pouvait, on se ferait tous vacciner par le plus efficace, mais en fait, on ne le peut pas. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire à la population. On ne peut pas attendre tous le Pfizer, on n'y en aura pas à cette dose. Donc il faut accepter de se faire vacciner par l'AstraZeneca.
Argumenter, rassurer, mais surtout ne pas forcer les patients. C'est le leitmotiv du docteur Lapica qui explique aussi que pour vaincre le Covid, aucune arme ne peut être négligée. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et des doses de vaccins supplémentaires sont aussi envoyées à Dunkerque, qui sera confiné pour les deux prochains week-ends, annoncé hier soir d'Olivier Véran. Le Premier ministre Jean Castex prendra lui la parole ce soir à 18h pour évoquer la situation sanitaire très préoccupante à l'échelle nationale. 10 départements en rouge vif sur la carte et un nombre de nouvelles contaminations au plus haut depuis la mi-novembre. Lui témoigne pour dénoncer les errements médicaux d'un chirurgien dans les Hautes-Alpes. L'ancien nageur Alain Bernard, champion olympique à Pékin et à Londres, alerte sur l'opération pourtant interdite dont a été victime sa mère qui devait soigner une hernie discale. L'homme qui l'a opéré à Gap a agi hors de tout protocole. Il est aujourd'hui suspendu, mais pourrait avoir fait une centaine de victimes. 9 patients ont déjà déposé plainte. Alain Bernard lance un appel à tous les autres. Écoutez.
Elle se fait opérer au mois de janvier 2017. 2 jours après, elle sort en marchant et pas de traitement post-opératoire derrière. Et les douleurs sont encore plus importantes. De ce fait, on décide de consulter un autre médecin. On lui a dit que c'était une cimentoplastie discale. Il a dit non, vous vous trompez, ça n'existe pas la cimentoplastie discale. On s'est rendu compte assez rapidement que c'était une pratique qui n'était pas courante. Et c'est tout l'objet aujourd'hui de l'enquête. Si ce n'était pas reconnu, dans quel cadre cela a été fait. Il y a des personnes qui ne peuvent plus retravailler à cause des douleurs et de l'immobilisation que cela engendre.
Quel est
aujourd'hui votre but ?
C'est retrouver ces fameux 80 voire 100 patients qui ont été opérés qui ont des complications aujourd'hui.
L'appel de l'ancien nageur Alain Bernard pour retrouver ses autres patients, il répondait à Frédéric Michel pour Europe 1. La pandémie a renforcé les risques liés aux dérives sectaires. Les signalements ont augmenté de 7% l'an passé, selon un rapport de la Miviludes, la mission interministérielle de lutte en la matière. Une dizaine de signalements, notamment autour de la mouvance complotiste QAnon, c'est ce qu'indique ce matin sur Europe 1 la ministre déléguée à la citoyenneté Marlène Schiappa, qui souhaite que chaque signalement sérieux puisse donner lieu à une enquête en justice. Fin de citation. C'est un chiffre qui laisse sans voix. Un tiers des espèces de poissons d'eau douce sont en train de disparaître de nos rivières. C'est l'alerte lancée par une quinzaine d'ONG ce matin, dont le WWF, qui publie un rapport que vous nous détaillez. Virginie Riva, bonjour.
Bonjour.
Parmi ces espèces de poissons d'eau douce, certaines qu'on connaît tous, comme les saumons.
Oui, car ils font partie, comme les anguilles, des poissons migrateurs, espèces parmi les plus menacées. Ils ont décliné de 93% en Europe depuis les années 70. Même problème avec les gros poissons de plus de 30 kilos, comme l'esturgeon, qui vit pourtant dans nos rivières depuis les dinosaures. Dans les deux cas, les raisons sont la surpêche, le braconnage, mais surtout les barrages qui les empêchent de se déplacer et de se reproduire. Claire Baffert, chargée de mission au WWF Europe.
Nos rivières sont de plus en plus fragmentées. On a construit, et notamment en Europe, énormément de barrages, alors pour l'irrigation, pour l'hydroélectricité. Mais aujourd'hui, ces barrages constituent des obstacles à la migration des populations de poissons migrateurs.
Rien que sur le sol français, il y a plus de 60 000 obstacles recensés par l'Office français de la biodiversité. 90% ne sont plus utilisés et ne servent donc pas l'économie. Le rapport recommande donc le démantèlement urgent de ces constructions, car les ONG rappellent que ces poissons ont une utilité fondamentale pour les écosystèmes des lacs et des rivières. Ils sont des proies et des prédateurs et garantissent la propreté des eaux.
Virginie Riva, c'est assez rare pour être signalé un groupe français du secteur de l'aérien qui dégage des bénéfices pour l'année 2020. Safran parvient à sortir 352 millions d'euros de bénéfices nets malgré la pandémie. Son chiffre d'affaires a baissé d'un tiers, mais l'équipementier a maintenu sa marge grâce, dit-il, à des mesures d'austérité drastiques. Un second français détenu en Iran. Il s'appelle Benjamin, il a 35 ans, jeune touriste en vacances dans le pays quand il a été arrêté au mois de mai dernier. Outre la chercheuse Fariba Adelhad, dont Paris demande la libération, c'est donc le deuxième de nos ressortissants à croupir depuis 9 mois dans une cellule iranienne. On termine avec les sports et en football. Lille condamnée à l'exploit pour rester en lice dans la Ligue Europa ce soir. Le LOSC va défier l'Ajax Amsterdam sur sa pelouse après avoir perdu 2-1 à l'aller. Cyril de la Morinerie.
Ce soir, les Lillois passeront devant la statue d'une icône mondiale, Johan Cruyff, l'idole du peuple batave, le génie qui inspire encore les générations de footballeurs hollandais. Les Lillois vont entrer dans le temple des quadruples vainqueurs de la Ligue des Champions, sans public, et il faudra en profiter. Le LOSC devra se sublimer, faire l'inverse du match aller. Mené au score, les Lillois s'étaient inclinés après avoir encaissé 2 buts en 3 minutes. Mais un exploit est toujours possible, espère l'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier.
On va tout donner pour pouvoir se qualifier, sachant que maintenant, autant au tirage, l'Ajax me paraissait évidemment favorite. Et là, en plus, avec le résultat de l'aller, ça paraît encore plus compliqué. Mais un match n'est jamais joué d'avance, pourquoi pas d'aller arracher une qualification.
Pourtant, le leader de la Ligue 1 pourrait être tenté d'en finir avec la Ligue Europa pour se concentrer sur le championnat. Mais Lille ne l'entend pas de cette façon. Espère, après avoir réalisé dimanche dernier à Lorient le match le plus abouti de sa saison, créer la surprise sur le terrain de l'Ajax Amsterdam, lui aussi leader de son championnat.
Cyril de la Morinerie, coup d'envoi du match à 18h55. Enfin, sachez qu'en Ligue 1, Nîmes sort de la zone de relégation après sa précieuse victoire hier soir dans le duel des mal classés. Victoire 1-0 à domicile face à Lorient. C'était un match en retard de la 21e journée de championnat.
Merci Théo Manval, il est 8h38. Et Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et il pleut en Bretagne, il va pleuvoir sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. La pluie va arriver sur la Loire Atlantique, la vallée de la Loire, la Champagne, les Ardennes. Un ciel nuageux sur Paris, le Poitou-Charentes, le Limousin, l'Aquitaine. Tout ce découpage, je le propose depuis ce matin, il se confirme. Sur Paris, il devrait pleuvoir peut-être quelques gouttes en soirée. De cela, il va l'emporter sur les régions de l'Est et sur le bassin méditerranéen. Et puis les températures entre 13 et 20 degrés. Ce sont les températures qui sont légèrement au-dessus des valeurs saisonnières. Ah, les valeurs saisonnières.
Je n'osais pas vous demander, je me disais, ça, je ne veux pas le piéger. Est-ce
comment
qu'il est
les
prêt,
calculs
que...
comment
vous avez
les
fait un teasing monumental depuis 7 heures. Comment est-ce qu'on calcule ces normales saisonnières?
On en parle sans arrêt. Et comment les calculs? Eh bien, on prend 30 stations françaises sur 30 ans et on fait la moyenne de la pluie, du soleil, du vent, des températures. Donc sur 30 ans, 30 stations et c'est cette moyenne qui sert de référence. Mais quelle année allons choisir? Jusqu'à présent, on se basait sur 1981 à 2010. Et puis maintenant, ça y est, ça change. On va passer de 1991 à 2020. Donc quand on dira les moyennes de saison, eh bien cela veut dire que c'est la moyenne des saisons entre 1991 et 2020. Et l'on saura comme ça.
Pour retenir d'ordinaire, voilà, que c'est en tout cas la moyenne des 30 dernières années. Quoi.
Oui,
ça c'est déjà
grosso modo.
Et on
change d'année tous les 10 ans. Des petits malins ont pensé que certains avaient calculé des années les plus froides pour que le réchauffement climatique soit un peu plus fort. Mais enfin, ça maintenant c'est fixé par l'OMM et donc c'est sérieux. C'est du sérieux. Et vous avez cette moyenne de saison qui pourra s'établir. Et maintenant, vous le saurez, chers amis, chaque fois, vous vous direz, tiens, ça a la moyenne de 30 ans.
C'est un monde merveilleux quand même que celui de la météo où les saisons, l'hiver commence le 1er décembre et l'été le 1er juin, par exemple. Et puis, vous l'aurez noté, on change d'année tous les 10 ans. Bon, je vous laisse réfléchir avec tout ça. Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Belliard.
Et c'est l'heure de retrouver le médecin d'Europe 1, Notre Santé, avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors ce matin, vous allez essayer de nous convaincre de tous aller chez notre ami le dentiste.
Et oui, et le premier message que j'aimerais vous délivrer, c'est de ne pas attendre d'avoir mal aux dents pour aller voir le dentiste. La prévention est probablement le meilleur traitement de vos dents et ça commence dès l'enfance. Amenez vos enfants vers l'âge de 2-3 ans chez le dentiste pour un contrôle.
Mais ça sert à rien, elles vont tomber après celle-là.
Eh bien non, au contraire, les dents de lait sont extrêmement importantes. Si jamais elles sont cariées, elles vont peut-être aussi perturber la pousse des dents qui sont saines. D'ailleurs, la Sécurité sociale propose un programme qui s'appelle Aime tes dents. Tous les 3 ans, un examen gratuit jusqu'à l'âge de 24 ans pour vous permettre justement d'aller voir le dentiste. Si jamais vous voyez une carie dans la bouche de vos enfants ou dans la vôtre, eh bien allez voir votre dentiste évidemment. Mais si vous n'en voyez pas, allez-y quand même. Certaines ne sont pas visibles à l'œil nu car elles vont être cachées derrière ou entre les dents. Raison pour laquelle le dentiste vous fait souvent des radios. Et puis, si vous voyez ce petit point noir qu'on peut voir justement dans la bouche qui correspond à une carie, eh bien sachez que ce point noir correspond à une carie qui s'est arrêtée. Et donc c'est plutôt bon signe. A l'inverse, si vous voyez une petite tache un peu blanchâtre ou marron, là c'est que la carie est en cours d'évolution et donc il faut absolument aller voir le dentiste.
Un point noir, c'est une carie arrêtée.
Exactement, donc les dentistes sont contents de voir ça. Et puis dernier conseil, si jamais vous avez des douleurs dentaires, surtout seulement du paracétamol, il y a une contre-indication formelle aux anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou l'aspirine, ça risque d'aggraver les choses tout simplement.
Et de plus en plus de dentistes pratiquent de l'hypnose pour les soins dentaires. Est-ce que c'est une solution pour ceux qui ont peur de la fameuse roulette du dentiste ?
Eh oui, c'est une solution extraordinaire puisqu'en plus elle est validée scientifiquement par de nombreuses études, notamment dans la gestion de la douleur. Alors, l'hypnose va permettre plusieurs choses. La première chose, un effet anxiolytique. Ça va vous permettre de vous détendre et ça commence dès la prise de rendez-vous en écoutant la peur des gens et en essayant d'y répondre. Et puis, ça va permettre aussi de traiter la douleur. On va consommer moins de médicaments après vous avoir arraché une dent, par exemple. N'ayez crainte, hein. On va quand même vous donner une anesthésie locale pour éviter justement d'avoir des douleurs. Et puis l'hypnose, c'est différent du sommeil. C'est un état de conscience qui est un peu modifié, qui va permettre au cerveau de produire lui-même les molécules contre la douleur et même contre l'anxiété. Donc on n'est pas du tout dans le cadre de l'hypnose spectacle. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, l'hypnose est aussi validée scientifiquement dans la colopathie fonctionnelle, mais aussi dans la fibromyalgie ou chez les femmes enceintes qui vont vomir notamment au premier trimestre. Et donc, c'est un moyen supplémentaire pour accepter de faire des soins dont on a tous besoin.
Jimmy Mohamed, est-ce que ce n'est pas le moins bien aimé de vos collègues, le dentiste, finalement là ?
C'est vrai, mais c'est... pourtant, mais on en a besoin.
Julie, vous avez peur du dentiste ?
Un peu, oui.
Un petit peu, Laurent Cabrol, vous avez peur du dentiste ? Ah, la roulette, le bruit de la roulette.
Ça me laisse rongeur.
Sans doute le moins bien aimé des médecins, le dentiste. Merci Jimmy Mohamed. L'hypnose, j'essaierai avant d'aller chez le dentiste pour le coup. Et à 15h, ça n'a rien à voir. On va parler, cela dit, rien à voir. De méditation avec une psychiatre, c'est bien ça Jimmy ?
Exactement, le docteur Colombel, les pouvoirs extraordinaires de la méditation sur votre cerveau, soyez au rendez-vous.
8h43, merci Jimmy Mohamed, c'était Notre Santé, Notre Planète, à présent avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Mathieu, bonjour à tous.
Vous nous dites ce matin, Fanny, que l'on pourrait recycler les gaz à effet de serre grâce à des lapins.
Oui, vous allez dire que j'ai craqué ce matin. Recycler des gaz à effet de serre grâce aux lapins, c'est l'entreprise LanzaTech qui a eu cette idée incongrue. Enfin, pas directement les lapins, grâce à une bactérie que l'on trouve dans les intestins des lapins. Vous trouvez cela encore plus étrange ? Pourtant, non, c'est très simple. En fait, c'est un peu comme quand on fait fermenter du houblon pour la bière, sauf qu'à la place du sucre, on fait fermenter les gaz émis par les usines. Et pour activer la fermentation, on ajoute une bactérie qu'on trouve dans les intestins des lapins. Je vous la refais en clair. On récupère les gaz sales en sortie d'usine, on les fait fermenter avec la bactérie issue du lapin, et à la sortie, on obtient de l'éthanol. Et d'une pierre deux coups, on évite d'émettre des gaz à effet de serre en fabriquant à la place un carburant moins polluant.
Ouais, ça a changé les recettes de cuisine. Bon, moins cher certainement, mais moins polluant. Ce n'est pas si sûr. Le bioéthanol était sous le feu des critiques il n'y a pas si longtemps, Fanny.
C'est très juste, hein, Mathieu. Le bioéthanol était avant très populaire parce qu'on considérait que lors de sa combustion, il émettait bien moins de gaz à effet de serre que l'essence. Mais le bilan carbone d'une source d'énergie ne se calcule pas qu'avec les émissions liées à sa combustion. Il faut prendre en compte l'ensemble du process. Et produire des agrocarburants, c'est-à-dire de l'éthanol, ça veut dire utiliser beaucoup de surface pour des cultures. Ces cultures sont gourmandes en eau et elles se développent au détriment de cultures alimentaires qu'on a reconverties en cultures d'agrocarburants. Avec la pression exercée par des ONG, l'accord de Paris avait entériné la fin des agrocarburants comme alternative miraculeuse au pétrole. Mais avec cette technologie dont je viens de vous parler, développée par LanzaTech, plus besoin de cultures dédiées aux agrocarburants, on peut directement recycler ces gaz à effet de serre en carburant moins polluant.
Ça, c'est très malin quand même. Concrètement, qu'est-ce que donnera l'application de cette invention, Fanny ?
Alors, la toute première application se fait dès cette année sur une des usines de production d'acier les plus polluantes de Chine. Objectif, produire 60 millions de litres d'éthanol par an en recyclant les gaz émis par cette usine. Ce serait l'équivalent du retrait de 80 000 voitures de la circulation chaque année. Dans l'immédiat, vous allez me dire c'est peu, puisque les États-Unis à eux seuls mettent 260 millions de voitures en circulation chaque année. Mais LanzaTech pense qu'une application généralisée de sa technologie permettrait de retirer l'équivalent de 800 millions de voitures de la circulation par an. L'entreprise espère donc recycler ces gaz polluants des usines pour en faire des carburants pour les avions, par exemple, ou même du plastique. Mais attention, mise en garde, à ne pas profiter de cette découverte. Hein, pour continuer à produire et consommer tout autant, l'éthanol et le plastique à base d'éthanol restent tous les deux polluants et non dégradables.
Merci Fanny Agostini. Notre planète, tous les matins, c'est sur Europe 1, hein, bien sûr. Il est 9h moins le quart. Et dans un tout petit instant, la revue de presse, Nicolas Canteloup va arriver. Julie s'est déjà installée. À tout de suite.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h47, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, Mathieu Béliard et son invité.
Et oui, mon invité, merci Julie. Mon invité, c'est Marlène Schiappa, la ministre de l'égalité homme-femme. Alors, Marlène Schiappa, femme-homme plus exactement, vous travaillez actuellement sur les sectes. Alors, il y a notamment les thérapeutes escrocs, on les connaît, les gourous, les faux médecins.
Vous savez, Mathieu Béliard, quand on pense aux sectes, on parle à Charles Manson ou au Temple solaire. Mais c'est un cliché, je tiens à le rappeler. Il y a aussi des médecins qui vous prescrivent du purin d'ortie en cataplasme ou de faire des câlins à des arbres. D'ailleurs, nous surveillons de près les chroniques, car je viens de l'entendre, de Fanny Agostini, qui s'attaque maintenant aux lapins.
En tout cas, en cas de confinement durci, Marlène Schiappa, qu'est-ce qui est mis en place pour prévenir de nouvelles dérives, Marlène Schiappa ?
Écoutez, la dérive sectaire, Monsieur Béliard, profite de l'isolement d'une personne. L'isolement d'une personne. Donc ne restez pas, c'est ma consigne auprès de nos concitoyens, des auditeurs qui nous écoutent, ne restez pas isolés. Par contre, attention au rassemblement. C'est dangereux. Ne restez pas seuls, mais ne soyez pas plusieurs non plus.
D'accord. Je note, Marlène Schiappa. Et les défenseurs de... Tiens, allez, on va ouvrir le jeu. Les défenseurs de Didier Raoult. Est-ce que Didier Raoult, c'est une secte ?
Non, écoutez, nous savons faire la différence, ça n'a rien à voir. Il faut une déviance et une volonté de nuire ou d'endoctrinement. Voilà. Didier Raoult, il est juste nul et il a une tête de gourou bizarre, genre Raël avec les cheveux sales. Mais ça ne doit pas être pour autant une alerte pour autant.
Alors, quelle est, Marlène Schiappa, on va parler, quelle est la ligne du gouvernement sur l'islamo-gauchisme, Marlène Schiappa ?
Tu sais, on est tous le gauchiste de quelqu'un. La ministre parfaitement dans son champ de compétences. L'important, c'est l'action qui est menée, en particulier contre la précarité menstruelle. Je le dis, c'est la première fois que dans ce pays, on distribue des serviettes hygiéniques gratuitement. Et l'hygiène, on doit s'attaquer l'hygiène pour les femmes, mais aussi pour les hommes. On pense aux hommes. D'ailleurs, on se pose la question de distribuer aussi gratuitement des rasoirs aux étudiants pour lutter contre les barbus.
Merci,
Marlène Schiappa. Il y avait un lien alors.
À vous, Julie.
Mais oui, mais on poursuit avec vous, Mathieu.
Allez, oui,
pas,
on poursuit
hein,
avec moi, oui, parce que je fais tout. Ah oui. Vous savez, je fais tout depuis une semaine. Je fais la vaisselle, je fais tout. Bonjour, ma chère. Je ne sais pas ce que je fais à la maison. Bonjour, ma chère Julie. Bienvenue sur Europe 1. Si vous venez de nous rejoindre, l'info du jour. Allez, l'info du jour. C'est bien sûr l'épidémie. L'épidémie qui flambe et le gouvernement qui surveille les villes au cas par cas. Désormais, on est en direct d'ailleurs de Dunkerque. Parce que Europe 1 sait se délocaliser. Dunkerque est désormais désormais confiné les week-ends. Pour faire un point, nous avons Nelson Montfort sur place. Nelson, vous m'entendez, Nelson?
Oh là là, il est déchaîné.
Oh, écoutez, mon cher Mathieu, mes chers Julie, bonjour à tous, vous êtes en pleine forme ici, Nelson Montfort, au départ de cette nouvelle étape du Tour de France des Covideux. Il règne ici une ambiance fiévreuse, si je peux me permettre. Oui, fiévreuse, puisque Dunkerque est en passe de dépasser, mes chers Julie, mon cher Mathieu. Nice, au classement des malades, c'est désormais donc 346 873 litres de miasme que la ville de Dunkerque produit en 24 heures.
Oh,
et les athlètes dunkerquois tournent à 39,8 de température de moyenne. Alors, qui peut rivaliser? C'est la grande question. Qui aura le maillot jaune glaireux du vainqueur des Toux? Qui aura le maillot à glavio du meilleur cracheur? On le saura ce soir quand Jean Castex donnera les résultats. On a hâte, on aura vous les studios, à vous Paris! À vous Julie, à vous Mathieu. Merci Nelson pour notre envoyé spécial en direct de Dunkerque. Et puis dans l'actualité aussi, l'état de forme du prince Philippe, le mari de la reine d'Angleterre, toujours, et ça inquiète le peuple anglais, toujours hospitalisé.
Oh non, le pauvre prince Philippe, pardon, bonjour ma chère Julie, bonjour mon cher Mathieu du matin. Oui, parce que j'ai mon Mathieu de l'après-midi, Mathieu Noël, j'ai mon Mathieu du matin, Mathieu Villiard.
Oui, d'accord, Stéphane. Alors, quel est l'état de santé du prince consort? Vous avez des infos?
Le prince consort, c'est surtout le prince consort pas en ce moment.
Oui,
il est attendu.
Non, mais à
99 ans, on prend plus de risques. Non, son état de santé est évidemment préoccupant. On va pas se mentir. Il a la tremblote, il a peu d'appétit, il dort mal, il a de l'arthrose, des difficultés à se déplacer, des troubles de mémoire.
Et ce sont les symptômes de quelle maladie, ça?
Alors, ça, c'est une maladie assez rare qui s'appelle avoir 99 ans, ma chère Julie. Vous verrez dans 50
ans. On en
rêve tous. En plus, le seul remède pour éviter d'avoir 99 ans en ce moment, c'est choper le Covid, qui vous donne d'ailleurs les mêmes symptômes, mais en pire. Ah, la vieillesse, c'est vraiment une saloperie. Vraiment.
Ou un naufrage. Hein. Oui, allez, merci Stéphane.
Oui. Je vous ai parlé hier de vous savez, la coquille.
Oui.
La coquille, parce que si on sort le cul, ça fait...
Oui, non, d'accord, on avait tous compris.
Et le prince Philippe, si on sort le L, ça fait pipe. Mais je vous ai parlé aussi de l'oignon ce matin, qui est une partie anatomique.
Non, écoutez,
ça me travaille en ce moment. Oh, ça me travaille.
Oui, mais l'oignon ce matin. C'est normal.
On ne s'arrête pas.
Allez, soyons un peu sérieux. Jean Castex s'exprimera à 18h. La situation est préoccupante dans certains départements. On s'attend à de nouvelles restrictions au cas par cas. Et on est en ligne avec le Premier ministre. Monsieur Castex, allô? Allô?
Et pour les nouvelles restrictions,
qu'est-ce qu'il nous
fait? Les nominés sont... Je déchire l'enveloppe. Nord, pas de Calais. La Moselle, l'île de France. Voilà, attends, Robert, baisse un peu le son de la musique. Non, fais un effort. C'est la quatrième répétition qu'on fait, Robert. Mettez bien le nom du département dans les écrans, parce que je n'y vois pas de loin dans le prompteur. Attendez, où j'ai mis le nom papillon pour ce soir? Non, il faut qu'on m'aide là, les enfants. La cérémonie de remise de restriction a lieu dans 9h, on n'est pas prêt, on n'est pas calé au niveau technique.
Monsieur Castex,
on n'est pas calé, pas de Calais,
pas de Calais.
Pardon.
Non, monsieur Castex, on vous entend là, vous êtes sur Europe, je vous signale.
Ah, putain, mon interview.
Ouais.
Pardon.
Alors, c'est maintenant.
C'est Mme Julie.
Oui.
Ah, je vous adore. Pardon. J'étais en pleine répétition pour la cérémonie.
Festival de Cannes, carrément.
Ce soir, c'est le grand soir. Vous allez savoir quels départements sont les grands vainqueurs de nouvelles restrictions. Hein, on essaye de rendre ça ludique, vous l'avez compris, et glamour, parce qu'on sait que si je l'annonce de façon brute, tout le monde va déprimer.
Alors, vous souhaitez éviter le reconfinement généralisé. Heureusement, du côté de la vaccination, il y a du nouveau. Hein. Les médecins généralistes vont pouvoir vacciner désormais.
Oui. Même Monsieur Mohamed pourra vacciner. Oui, on accélère la vaccination. On était déjà à Donf. On était à quoi, 2% de la population. Là, on accélère encore. On va passer à des quoi, 2,5, 2, 3 quarts de population. En même pas quoi, 12 semaines. Non, vous allez voir. Alors les généralistes vont vacciner, mais pas seulement. Vous avez aussi les acupuncteurs qui vont vacciner, les couturières vont vacciner, les junkies vont vacciner, les abeilles et les guêpes, tous les professionnels, la piqûre vont vacciner.
Ah, de la piqûre, voilà. Les abeilles.
Vivi. Tout le monde est mobilisé parce que là, ça devient urgent, je vous le conseille.
Eh bien, merci, monsieur Castex. Bonne répétition, hein. Et puis à ce soir, 18h. Alors, cette vaccination chez les généralistes, comment ça va se passer? Michel Simès, vous êtes médecin. Est-ce que ça peut vraiment permettre d'accélérer les choses?
Eh bien, bonjour Marina, bonjour à tous. Écoutez, depuis ce matin, en tout cas, les généralistes ont vu défiler dans leur cabinet des dizaines de milliers de personnes. Et effectivement, je vous le confirme, ça va vite. Le patient rentre, le patient demande s'il peut se faire vacciner. Le patient rentre donc, se pose la question. Le médecin répond qu'il n'a pas encore reçu les doses. Et le patient fait demi-tour et s'en va. Vous voyez, effectivement, c'est rapide, ça prend entre 3 et 4 minutes.
Merci, docteur Simès. Ah tiens, on n'avait pas parlé des Daft Punk, on va le faire. C'est fini, hein, vous le savez, les deux Français les plus connus dans le monde se séparent. Ce sont deux immenses musiciens. Philippe Martinez, tiens, vous êtes la bonne personne pour évoquer les Daft Punk. Si, vous allez voir.
Oui, bonjour Mme Julie, bonjour Monsieur Veillard. Oui, ben écoutez... Vous voyez, deux musiciens, moi je franchement, je vois clairement, vous dites deux musiciens, vous résumez ça à des musiciens, moi je vois clairement deux militants cégétistes qui envoient un message fort au patronat.
Un message au patronat, mais quel message?
Bah attendez, franchement, Mme Julie, faites pas l'innocente, ils ont
quoi?
Quel âge les Daft Punk, Mme Julie?
Je sais pas, moi 45, je dirais entre 45 et 50.
Voilà, ils ont 46 et 47 ans, voilà, je vous l'informe, puisque vous êtes en priori une radio d'information, ben voilà, moi je suis précis dans les chiffres, 46, 47 ans, voilà.
Ouais,
hein, et ils prennent et leur retraite.
Hein. Ah, ils prennent leur retraite à cet âge-là.
Ben oui, mais quelque part, excusez-moi, mais c'est un grand bras d'honneur au grand capital. Hein. Vous savez, après 30 ans de disjockey, ben on a des problèmes de santé dramatiques, hein, comme tout le monde, hein, problème de lombaire, hein, parce qu'il faut être couché sur... arc-bouté sur sa platine, voilà. Surdité, hein,
à cause du casque.
Ben ouais, à cause du casque. MST fréquente, parce que les rencontres, bon, je ne vous fais pas un dessin. Donc je réclame la retraite à 46 ans pour tous les ouvriers disjockeys de France qui nous écoutent.
Bon,
monsieur Guetta, monsieur Sinclair, si vous nous entendez, ben faut arrêter maintenant.
Ah bah d'accord, allez. Merci, Philippe.
Bravo, Nicolas Canteloup et toute son équipe, évidemment, les auteurs de Nicolas et Julie, que l'on retrouve dans la revue de presque sur Europe1.fr ou alors demain matin à 8h45. Il est 8h57 et Philippe Vandel nous a rejoint. Culture Média, la matinée continue sur Europe 1.
Bonjour Philippe. Mathieu, bonjour Julie. Et tiens, justement, notre info média du jour avec une idole des 10 jockeys. c'est un portrait intimiste de Serge Gainsbourg à l'occasion des 30 ans de sa disparition. Archive filmée inédite, enregistrement audio très rare avec le soutien, la participation de Charlotte Gainsbourg et de Jane Birkin. Documentaire loin des clichés habituels. On sera avec ses réalisateurs Stéphane Benhamou et Sylvain Berger. Au sommaire également, une émission qui met à l'honneur des tatoueurs qui rattrapent des tatouages honteux ou complètement ratés. Vous rigolez, vous avez ça sur vous ou pas?
Non, j'ai pas ça, mais j'adore ça sur internet, les photos de tatouages ratés.
Tattoo Cover, ça s'appelle. On sera avec l'animatrice Cécile Djunga et un des tatoueurs Marty. Et puis, il a bossé avec les plus grands de Gainsbourg, justement, mais surtout pendant 10 ans, manager de téléphone. C'est François Ravard qui raconte ses mémoires dans un livre Rock'n'Roll. Il y a même aussi du sexe et de la drogue.
Culture Média, oui, parce que le rock'n'roll tout seul,
ça suffit pas.
Culture Média de 9h-11h avec Philippe Vandel, évidemment. Il est 8h58, je vous souhaite une très belle journée. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.